L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Bonjour et bienvenue à Handicap Tribune, une émission de nouveau en différé puisqu'on a toujours des restrictions pour aller à la friche. Au sommaire aujourd'hui, il y aura Madame Delaine qui nous parlera de comment on peut travailler avec une maladie chronique. Il y aura également Greta Sandon qui nous parlera d'un projet qu'elle a, d'un projet chorégraphique avec des personnes handicapées visuelles et des danseurs valides. Et puis, il y aura également un jeu et puis des pauses qui, j'espère, vous plairont. Vous êtes sur Radio Galère et on est ensemble pour presque 2 heures avec, dans les dernières 20 minutes, le moment musical qui, cette fois-ci, sera consacré aux interprètes de Jean Ferrat. On commence avec une pause musicale, je dirais, d'actualité. Vous savez que notre président de la République a décidé de supprimer l'ENA. Ça m'a donné l'idée de vous faire réentendre, parce que vous la connaissez peut-être, une chanson de 1976 qui a été chantée par Gilbert Lafaye. Vous allez comprendre pourquoi.
J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où il n'y a pas d'éléphant. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Ils ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons, des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président? M'ont demandé mes enfants en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a. Et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA, ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA? Où est-ce que c'est l'ENA? Est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est au Kenya? Mais non, c'est à Paris. Et Paris, où est-ce que c'est? C'est derrière la prairie. Bon, maintenant ça suffit, ils commencent à tirer. Ils ont eu le vieux Paul qui pouvait plus courir, Morissette et Fredo qui se grattaient le dos. Ils étaient sans défense, je dis pas ça pour rire. Ça aurait pu être pire, on a eu de la chance. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Nous on vit bien au chaud, au fin fond de la brousse. On se pousse au bord de l'eau, et là on s'éclabousse. On fait partir les mouches qui sont dans nos oreilles. Après on prend des douches, à poil sous le soleil. On n'est pas bien sauvage, juste un peu corpulent. L'œil tout rond pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à pas lent, c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Où est-ce que c'est l'ENA?
Gilbert Lafaye en 1977 et non en 76, comme je disais tout à l'heure, le président et l'éléphant. Revenons en 2021 avec notre première invitée de Handicap Tribune ce mois-ci, Marie Delaine. L'interview a été réalisée le 12 avril par téléphone. Madame Delaine, bonjour. Vous nous avez contacté pour notamment parler des possibilités de travailler avec un handicap invisible, avec une maladie chronique. Mais avant cela, le mieux serait sans doute de vous présenter d'abord aux auditeurs pour qu'on sache qui vous êtes et d'où vous parlez.
Bonjour, je m'appelle Marie Delaine. Je vous parle de Toulon, où je suis donc domiciliée actuellement pendant cette période de confinement. Je suis atteinte d'une maladie chronique qui s'appelle la sclérose en plaques. Celle-ci s'est déclarée, a été diagnostiquée plus précisément il y a 25 ans, après un temps d'errance, après de longs mois d'errance médicale.
Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que c'est la sclérose en plaques ?
C'est une maladie incertaine qui fonctionne par poussée. Elle a été parfois très handicapante, très perturbante, et puis d'autres fois elle m'a laissé tranquille. C'est une maladie du système nerveux central, hein, c'est-à-dire du cerveau et de la moelle épinière. C'est une maladie qui atteint les gens jeunes. Je l'ai diagnostiquée autour de 30 ans. Il y a 130 000 personnes atteintes par cette maladie. C'est une maladie auto-immune, à l'instar de, par exemple, les rhumatismes articulaires inflammatoires, les diabètes, le lupus, le psoriasis. Enfin, elle fait partie de ces groupes de maladies où votre système immunitaire, au lieu de vous défendre, bien, va vous attaquer. Vos anticorps vont, dans le cas de la sclérose en plaques, franchir la barrière hématoencéphalique, cette barrière qui sépare le cerveau du reste de l'organisme, et attaquer la myéline. La myéline étant un élément qui protège les nerfs. Le nerf n'étant plus protégé, c'est comme un courant électrique. Il ne conduit plus bien l'influx nerveux. Et à ce moment-là, en fonction des lieux où les lésions se produisent, eh bien, vous avez des tas de troubles. Vous avez des troubles sensitifs, des fourmillements, des brûlures, des douleurs, des engourdissements, des pertes de sensibilité. Vous avez les troubles moteurs que l'on voit le mieux, hein, la faiblesse musculaire, les troubles de l'équilibre. Ça, c'est fréquent de voir des gens avec des démarches ébrieuses qui caractérise bien la sclérose en plaques, des troubles de la coordination, des troubles oculaires aussi. Le trouble oculaire est très fréquent. Des névrites optiques, des visions doubles, vous avez des baisses de l'acuité visuelle, des troubles urinaires. Les troubles urinaires sont voilà, aussi des troubles invisibles qui sont très fréquents. Et puis, il y a les troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, de la concentration qui apparaissent avec le temps, qui sont mal identifiés aujourd'hui encore. Et puis, le trouble qui concerne à peu près, je vous dirais, 95% des gens qui sont atteints d'une sclérose en plaques, la fatigue.
Pour vous, quelle a été l'évolution de la maladie ?
Moi, j'ai eu des troubles de la sensibilité au départ, des fourmillements, et surtout après, la fatigue qui était non identifiée, on ne savait pas d'où elle venait. J'ai fait de nombreux examens avant d'être diagnostiquée au CHU à la Timone. On n'évoquait pas de sclérose en plaques, on parlait de rhumatisme, on parlait de fatigue, on parlait de troubles psychiques, vous voyez. Et il a fallu simplement un IRM pour diagnostiquer la SEM. Et ça a été un soulagement pour moi. Ça a été un soulagement de ce diagnostic parce que on mettait enfin des mots sur des troubles auxquels personne ne comprenait rien. Et comme il s'exprimait quand même essentiellement par de la fatigue, on ne comprenait pas, et moi non plus. C'était très perturbant. Donc, si vous voulez, quand ce diagnostic a été posé, ça ne m'a pas posé particulièrement de problème. Au contraire, ça m'a plutôt apaisé. Bon, après une fois le diagnostic posé, si vous voulez, j'ai fait quelques traitements, parce qu'il y a deux grands types de traitements. Pour faire échec aux poussées, pour interrompre les poussées, c'est les corticoïdes, la cortisone à dose massive. Et puis, il y a les traitements, les immunomodulateurs, les immunosuppresseurs, qui ont pour objet d'interrompre, de ralentir le processus, parce que c'est une maladie incurable. On n'a pas trouvé, comme pour les autres maladies auto-immunes d'ailleurs, on n'a pas trouvé de traitement, de moyens permettant de l'interrompre. On vit avec, c'est une maladie que l'on a à vie. C'est pour ça qu'on parle de maladie chronique. Et dans mon cas, si vous voulez, les difficultés, elles sont apparues au moment où la maladie s'est exprimée de manière agressive, c'est-à-dire sous forme de poussées répétées. Diagnostic en 96, pas de problème pendant 4 ans, jusqu'en 2000. Première difficulté à partir de 2000 et en 2003, avec la canicule, une série de poussées extrêmement puissantes et violentes. Voilà. Et là, vraiment, qui m'ont plongé dans le plus grand désarroi et physique et psychique. J'avais des plus grandes difficultés, qu'il soit pour marcher. J'avais une fatigue intense et ça, pour moi, ça a été une période extrêmement compliquée. Et puis, après un traitement très efficace, un traitement un immunosuppresseur, vous voyez, je me suis arrêtée pendant plusieurs mois, là, hein, pendant plusieurs mois.
Parce que la maladie, en fait, vous a prise pendant votre parcours professionnel.
Voilà, exactement. Moi, j'étais fonctionnaire, hein, je suis fonctionnaire, je viens de la directe, j'exerçais des fonctions juridiques au sein de ce qu'on appelait à ce moment-là la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, j'ai eu la possibilité de m'arrêter plusieurs mois, puis j'ai eu envie de retourner au travail. Vous voyez, ça a été pour moi, le, ça a été absolument essentiel de reprendre un peu la main sur le cours des choses, d'avoir une vie que je qualifie, moi, de normale. Ça a été aussi un moment d'angoisse, parce que j'avais peur, j'avais toujours la fatigue. Hein. La fatigue, là, je ne connais pas de traitement qui permette, à moins d'une bonne hygiène de vie, de la réguler. En tout cas, moi, j'avais très peur à ce moment-là, je m'en souviens très précisément, hein. C'était en 2005, j'avais vraiment très peur d'être dépassée par le rythme de travail, de ne pas y arriver. Et pourtant, ça s'est déroulé dans de bonnes conditions, parce que j'ai bénéficié de beaucoup d'atouts, moi. J'ai eu vraiment, c'est ça que je veux transmettre, c'est ça que je veux porter, dire c'est possible, on peut avoir un milieu professionnel bienveillant, voyez, dans lequel la maladie n'est pas stigmatisante, parce que je boitais, j'avais une canne, c'était quand même le regard des autres me perturbait, m'incommodait. J'ai beaucoup souffert du regard des autres, mais c'était ma propre histoire à moi, c'est mon problème à moi, voyez. Parce que j'ai toujours conservé des contacts amicaux, cordiaux avec mes collègues de travail. J'ai maintenu aussi, j'ai eu une relation toujours de confiance avec ma hiérarchie. Hein. Elle n'a pas mis en doute ma hiérarchie et mes compétences. Elle a vu des limites, elle a vu des changements de rythme, elle a vu de la fatigue, ça c'était vraiment perceptible. Mais on ne m'a pas remise en question. J'ai eu des adaptations de poste, j'ai dû passer d'un poste actif où j'avais des déplacements vers un poste sédentaire, mais toujours avec mes fonctions juridiques, hein, ce qui était l'essentiel pour moi. Dire le droit, pour moi, c'est essentiel, parce que c'est le rendre effectif. On est dans une société de droit et j'ai pris à cœur, surtout maintenant que j'ai cette maladie, avec cette maladie, de faire passer ce message. Pour réduire ma fatigue, si vous voulez, j'ai pu bénéficier pendant un temps, puisque j'étais fonctionnaire, c'était possible, d'un travail à temps partiel thérapeutique pendant un an, mais c'est pareil dans le secteur privé, hein. Puis d'une formule qui s'appelle le congé de longue maladie fractionné, qui m'a permis de travailler pendant de nombreuses années. J'avais une répartition du temps de travail qui m'a permis de commencer plus tard pour éviter, par exemple, les embouteillages et des journées pas très longues. Avec le congé longue maladie fractionné, on a pu établir un protocole de soins qui m'a permis d'utiliser du temps pour me soigner, c'est-à-dire faire de la rééducation, de la baséo, de la sophrologie, de l'orthopsie parce que j'avais des problèmes oculaires, et puis pour m'apaiser, de la méditation pleine conscience et des tas d'autres soins qui m'ont permis de continuer à travailler. Voilà. Et ça, c'est des formules dont j'aimerais que tout le monde puisse bénéficier. J'ai eu aussi une belle compréhension de la part du médecin de prévention, hein, c'est le médecin de l'aptitude dans la fonction publique. Et j'ai travaillé donc jusqu'en 2017, où à la suite, si vous voulez, d'un accident, hein, d'une chute et d'une accentuation de ma fatigue, j'ai décidé de partir en retraite anticipée.
Madame Delaine, après votre départ à la retraite, vous avez souhaité devenir patiente experte. De quoi s'agit-il ?
Quand je me suis retrouvée donc en interruption de vie professionnelle, j'en ai parlé aux neurologues qui me suivent, donc au CHU, au Centre de ressources et de compétences de la Timone, en disant que j'avais besoin de m'investir pour aider les gens. J'avais vraiment envie d'aider les gens. On m'a indiqué à ce moment-là qu'il existait des formations. Je ne connaissais pas la fonction de patient expert. C'est un nom, c'est un mot un peu ronflant, hein, patient expert. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais je suis un peu à l'aise avec ça maintenant, parce qu'après tout, nous les patients atteints de maladie, nous sommes experts de notre vie avec la maladie. Hein. Nous l'avons expérimenté et nous en sommes devenus les dépositaires. Donc, pour moi, comme expert, expérimenté, expérience, ça le même radical latin, expériri, celui qui a fait l'expérience de la maladie, je suis moins gênée. Mais mon expérience à moi, elle vaut pour moi. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de transformer cette expérience personnelle en expérience pour autrui et même en expertise, c'est-à-dire de la structurer, de la renforcer. Et on m'a indiqué donc qu'il existait une formation de patient expert qui était dispensée par la fac de médecine de Marseille. C'est une formation exceptionnelle qui débouche sur des diplômes universitaires. Elle est ouverte à tous les patients atteints de maladies chroniques et aussi à leurs aidants. Elle dure un an. il y a deux diplômes, il y a un certificat universitaire, puis il y a aussi un diplôme universitaire qui est un peu plus lourd. Elle se décline sous forme d'enseignement autour des institutions sanitaires. Quelles sont nos institutions? Quel est notre système de santé? Quelles sont les grandes pathologies? Où en est-on de l'épidémiologie? On fait aussi de l'enseignement autour de l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on est dans une grande ville, Marseille, où l'éducation thérapeutique du patient est très développée. Tout ça, ça a été une façon de structurer mes connaissances et de les développer, de les renforcer, et ensuite de me permettre de discuter avec des professionnels de santé. J'ai aussi bénéficié d'une autre formation à Paris, avec Catherine Tourette-Turgis. Catherine Tourette-Turgis, c'est la fondatrice de l'Université des patients à Paris. Et cette formation, elle a été initiée par une association à laquelle j'adhère, qui est la Ligue française contre la sclérose en plaques. Et partout, si vous voulez, j'ai trouvé un état d'esprit positif, avec des tas de champs d'intervention.
Maintenant que vous êtes formée, quelles sont vos activités ?
Cette fonction de patient expert, chacun a un peu ce qu'il veut et ce qu'il peut dans son environnement. Moi, mon champ d'intervention, c'est aider les autres, c'est faire du lien, créer du lien. Ici, on a créé à Marseille ce qu'on appelle les KWASEP, qui permet de nous retrouver. Jusqu'à la pandémie, c'était dans des lieux éloignés de l'hôpital, dans des bars, dans des cafés, dans des restos où on nous accueille volontiers. Et puis, maintenant, en utilisant le digital, le Zoom, le Skype, en format des groupes de parole, et puis en nous exprimant aussi auprès des professionnels de santé. Par exemple, à Marseille, on participe au comité de pilotage du Centre de ressources et de compétences de la sclérose en plaques, qui a été formé par les grands professionnels de santé sur le territoire sur PACA. On participe aussi à des activités conduites par l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. On participe à la formation, on est appelé à participer, à donner des cours, des enseignements aux professionnels de santé, aux paramédicaux. On intervient dans le cadre de l'éducation thérapeutique, où l'on peut témoigner puisqu'on a la formation dans des champs qui nous intéressent. Moi, je peux intervenir autour de thèmes que je connais, la gestion de la fatigue, le voyage aussi. On peut voyager avec une sclérose en plaques. Dans le champ du droit, bien sûr, des droits sociaux. Au niveau parisien, on est consulté par le ministère sur la simplification des démarches, les restes à charge. On peut témoigner aussi dans des émissions de radio, hein, comme la vôtre. Hein. On réalise des brochures aussi au profit des patients avec des laboratoires. Voilà quelques activités que l'on peut développer.
Et toutes ces activités-là sont d'ordre bénévole ?
Oui, c'est du bénévolat. En France, on est dans le bénévolat. Il y a une professionnalisation dans certains pays, notamment au Canada, où ces expériences-là se développent. Les professionnels de santé travaillent beaucoup avec les patients ressources, les patients témoins, les patients partenaires, vous voyez. Et puis dans d'autres pays européens, on est en avance. Oui, nous, on est dans les balbutiements. On est dans les balbutiements de cette expérience qui a débuté il y a 30 ans. Les patients experts, ils sont nés, si vous voulez, avec d'abord les alcooliques anonymes. Hein. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis hein, dans les années 30. Puisqu'il y avait un échec thérapeutique, donc les patients ont montré que le partage et l'échange d'expérience représentaient une réponse thérapeutique efficace. Hein. Après, dans les années 50, vous avez beaucoup d'associations d'usagers qui se sont développées, notamment dans la santé mentale. Ils ont prouvé la pertinence de la péridance. Et puis dans les années 90, alors là, il y a eu des associations d'usagers de drogue qui ont inventé des groupes d'autosupport. Et puis les patients, les associations ont mobilisé dans le champ, par exemple, du sida, là ça a été très fort, de l'hémophilie, de la myopathie, de la mucoviscidose, vous voyez. Donc depuis 30 ans, depuis une trentaine d'années, les patients expriment la volonté dans le champ des maladies chroniques hein, de devenir acteurs du système de santé. Le législateur n'est pas resté en reste quand même. Hein. On a les grandes lois de 2002 et de 2009. 2002, la loi Kouchner, hein, qui accordait des droits individuels et des droits collectifs aux patients. Et puis la loi de 2009 qui inscrit l'éducation thérapeutique du patient dans un cadre juridique.
Quelques notes du printemps de Vivaldi, extrait du concerto des quatre saisons, interprété ici par les sœurs Berthollet, pour illustrer l'interview de Madame Delaine, la première partie de l'interview, puisqu'il y en aura une seconde tout à l'heure. Mais avant cela, place à notre jeu musical. Comme d'habitude, il y a 5 titres de chansons ou instrumentaux à trouver. Et je me suis inspirée pour faire ce jeu d'une actualité récente que je pense vous n'allez pas avoir trop de peine à deviner non plus. Peut-être que vous vous demandez où je veux en venir avec ces titres plutôt disparates. Mais en fait, ils ont tous à voir soit par le titre de la chanson, soit par l'œuvre dont la chanson est issue. Ils ont tous à voir avec une actualité récente que je ne vous indiquerai pas. Enfin, plutôt, je vous l'indiquerai, mais à la fin de l'émission, histoire que vous soyez un petit peu à chercher. Et puis, si vous trouvez les titres, n'appelez pas parce qu'il n'y a pas d'antenne ouverte aujourd'hui. On est en différé sur Radio Galère, c'est Handicap Tribune, avec pour que peut-être vous réfléchissiez au jeu que je viens de faire, eh bien, une pause musicale, une chanson aussi bien connue, mais dans une version un peu inhabituelle.
Chaque jour comment je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour, mais j'espère de vivre. Et moi je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien, bien trop courte pour se faire des misères. C'est presque tous les soirs, traîner tout partout et puis chanter dans le whisky bar. Y'a des fois, tu connais moi, j'aimerais lâcher m'en aller. Mais je suis venu ici ce soir et je vous fais serment pour le plaisir de vous entendre chanter. Et
chaque jour, moi je vis, on demande quoi je vis, je dis que je vis. Québécois, les Québécois ce soir.
Travailler, c'est trop dur, une chanson que l'on connaît surtout par Julien Clerc. Ici, c'était Zachary Richard en concert. Et donc, j'espère, moi, que les artistes pourront bientôt retrouver leur public et que nous aussi, on pourra retrouver les artistes. On nous le promet pour la mi-mai. Eh bien, j'espère que ça va effectivement arriver. Nous sommes sur Radio Galère, c'est Handicap Tribune et nous retrouvons la seconde partie de l'interview de Marie Delaine, qui nous parle justement de l'emploi avec une maladie chronique ou un handicap. C'est souvent plutôt difficile, mais c'est possible. En tout cas, quand les conditions sont réunies pour que les choses se passent bien. L'interview a été réalisée par téléphone le 12 avril. Elle est toujours habillée avec les 4 saisons de Vivaldi, interprétées par les sœurs Berthollet. Madame Delaine, vous avez eu un parcours professionnel dans la fonction publique, avec un emploi aménagé quand est survenue la sclérose en plaques. Aujourd'hui, vous êtes patiente experte pour cette maladie en région PACA. Pourquoi avez-vous voulu informer nos auditeurs des possibilités de travailler avec une maladie chronique ?
Je voudrais quand même rappeler une chose, vous voyez, c'est qui me paraît très importante, que le travail, l'emploi dans la vie, c'est quand même une question centrale, hein ? Et c'est la même chose quand on a une maladie chronique dont la sclérose en plaques. Vous voyez, on a les mêmes besoins. Hein. On a des besoins de ressources, on a des besoins de liens sociaux, on a des besoins de protection sociale, et puis de se sentir utile, de trouver du sens. C'est quand même le travail, ça. Le donne généralement, hein, le travail, pour en avoir discuté, c'est pas mon point de vue personnel, hein, c'est mon point de vue de patiente experte qui travaille dans cette thématique ici, et puis en région parisienne où je suis dans des groupes de travail. C'est quand même un point d'ancrage, hein. C'est un moyen d'accommodement, hein. Parce que vous êtes déchiré, vous êtes en miettes quand vous avez une maladie chronique, et il faut le raccommoder, le tissu. La maladie chronique, c'est pas la maladie aiguë, c'est pas un arrêt de travail, c'est une dame de compagnie qui vous tourmente, hein, et qui va être avec vous tout le temps, jusqu'à la fin de vos jours. Et en France, le problème, c'est que, du moins jusqu'à la pandémie, là, jusqu'à la Covid, eh bien, maladie et travail n'étaient pas des termes associés. Au travail, vous n'êtes pas malade. Au travail, où vous êtes citoyen, voilà, où vous êtes, après être un citoyen, vous avez la reconnaissance de travailleur handicapé.
Cette reconnaissance qu'on connaît plus généralement sous son acronyme RQTH, pourquoi est-il important de la demander et comment l'obtenir ?
C'est une reconnaissance administrative qui est accordée par la maison départementale de la personne handicapée aux personnes qui ont un problème de santé. Alors, ça peut être physique, sensoriel, mental, psychique, ou il a une maladie chronique qui a des répercussions sur la possibilité de travailler. Et ça, ça existe depuis 87 quand même. Hein. Et d'ailleurs, ce qui crée le handicap, souvent, c'est pas la maladie elle-même, c'est l'environnement. Hein. D'ailleurs, on dit que les personnes sont en situation de handicap. Voilà. Le dossier est téléchargeable sur Internet. Vous pouvez aussi le récupérer en vous présentant à la maison départementale des personnes handicapées qui est à Marseille et qui est à Joliette. Vous pouvez leur téléphoner pour l'obtenir. Dans ce document, il y a deux parties. Une partie administrative, où vous allez indiquer pour quels sont vos troubles, quel est votre projet de vie. Et puis un volet médical, qui sera complété par votre médecin, par votre neurologue ou par votre médecin traitant. et qui va faire apparaître vos difficultés, vos déficiences, vos problèmes. C'est un dossier global, le dossier MDPH. On y demande ce dont on a besoin avec cette maladie chronique. On peut avoir besoin d'une allocation, on peut avoir besoin de soutien, de ce qu'on appelle la PCH, la prestation compensatoire du handicap, pour assurer les actes essentiels de la vie, pour faire aménager son véhicule, pour pouvoir continuer à aller travailler, pour pouvoir aussi avoir cette reconnaissance. Cette reconnaissance, c'est quelque chose que vous gardez, vous, dont vous ne parlez à personne. C'est une affaire personnelle. Vous en parlerez au médecin du travail, si vous le souhaitez, ou à votre employeur si vous en avez besoin. Voilà. Mais c'est quelque chose, tant que vous n'en avez pas besoin, vous le gardez par-devers vous. Par contre, à partir du moment où vous en aurez besoin, considérez que c'est un atout, qu'elle va ouvrir droit à des avantages. Voyez, elle va vous permettre de faire appel à des personnes qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'accéder ou de vous maintenir un emploi.
Cependant, il y a beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques qui hésitent à demander la RQTH. Pourquoi ?
Je pense que pour aller vers cette reconnaissance du handicap, il faut d'abord analyser les obstacles, les freins. Pourquoi il y a cette crainte de déclarer, de dévoiler, de dire qu'on a une maladie et ensuite de la faire reconnaître administrativement. Et il me semble qu'en les identifiant, en les nommant, en en parlant comme ça largement, on va les faire régresser.
Oui, parce qu'en fait, la première difficulté pour travailler, et pour travailler dans de bonnes conditions, ça viendrait donc des malades eux-mêmes.
Oui, il y a des obstacles du côté des patients, étant entendu que des obstacles, bon, ils vont dépendre de la sévérité de leurs atteintes, de la durée, du nombre d'arrêts de travail, de leur statut, de leur activité. Vous avez des secteurs qui sont par exemple les métiers de la caisse ou de la logistique, qui sont très durs physiquement, et il va être très difficile de travailler dans ces secteurs-là. Plus difficile certainement que dans des activités administratives. Voilà. Et puis vous avez aussi l'attitude des chefs d'entreprise, quand même, des acteurs de l'entreprise.
Hein. Oui, parce qu'on a quand même des clichés qui durent sur le fait que la personne handicapée, elle est moins compétente que ses collègues valides, elle est plus fatigable que ses collègues valides, elle fait plus d'absence que ses collègues valides. Ce sont des clichés ou ce sont quand même des réalités ?
Il faut d'abord dire une chose quand même, c'est que les maladies, souvent, ralentissent sur l'exercice du travail. Hein. Ça, c'est vrai. Vous avez dans la maladie, vous rentrez dans un monde tout à fait différent. Vous rentrez dans le monde de l'hôpital. Vous allez avoir des hospitalisations. Vous allez avoir des temps de traitement. Il faudra récupérer. Vous allez avoir de la kiné nécessaire. Vous allez avoir de la rééducation pour ne pas, pour ne pas régresser. Tout ça. Vous avez aussi un risque accru d'accident du travail. Hein. Les troubles visuels, les troubles de l'équilibre, les troubles de la sensibilité, de la coordination, de la motricité, tout ça, ça peut générer des risques d'accident du travail. Vous avez aussi des risques d'éventuelles difficultés relationnelles, hein, parce que ça va résulter de l'incompréhension que suscitent certains troubles. Comment vous voulez faire comprendre « je suis fatigué » alors que ce terme « fatigue » est tellement banalisé ? Il faudrait trouver, souvent on en parle avec les neurologues, trouver un autre terme pour désigner ce truc-là qui s'abat sur nous, qui nous accompagne tout le temps, qu'il est tellement difficile de juguler dans ses pas. Donc, avec tout ça, la SEP, elle est mal appréhendée. Et puis, il y a, comme vous le dites, des représentations qui perdurent, des idées reçues. Souvent, on dit « fauteuil roulant, incapacité ». Alors que ce n'est pas vrai, il y a plein de gens avec fauteuil roulant qui travaillent, vous voyez. Et ça, malgré les nets progrès de la médecine et de l'accompagnement. Donc, souvent, l'annonce de la maladie, elle est sujette à réflexion. Hein. On craint vraiment la mise à l'écart, et c'est ça le problème. Hein. On a peur, en révélant sa maladie, d'être vraiment identifié comme un malade, voilà, comme une personne qui inquiète, et plus comme un citoyen, plus comme une personne. Donc vous avez beaucoup de gens, et notamment dans la SEP, qui dissimulent la maladie tant qu'on ne la voit pas. Pourtant, c'est pas parce qu'on est visuellement bien que l'on va bien. Et dommage avec ces troubles de se priver de soutien, de dispositifs compensatoires dont on peut bénéficier. Donc le résultat, ben, c'est qu'un quart des patients abandonnent rapidement leur emploi. Voilà. Et c'est pas souvent leur choix. Hein. Il y a 200 000 inaptitudes par an. Hein. Il y en a combien qui se reconvertissent là-dedans? Et puis il y a un autre truc, vous perdez votre emploi. Vous rentrez dans un temps nouveau d'inquiétude, d'incertitude, alors que normalement le projet professionnel s'inscrit dans l'avenir.
Il y a donc des freins du côté des patients, mais il y a aussi des difficultés du côté des entreprises Et généralement, ce n'est pas de la mauvaise volonté.
On travaille à son rythme avec une sclérose en plaques ou d'autres maladies chroniques. Ça ne veut pas dire qu'on soit moins efficace ou qu'on soit moins motivé, hein. Mais il y a quand même des réticences à effectuer des travaux d'aménagement de poste, des locaux de travail. Il y a beaucoup d'aides, hein. Il y a des aides techniques, ergonomiques, financières, mais c'est sous-utilisé. Et puis, il ne faut pas oublier que dans des maladies chroniques, c'est compliqué pour les entreprises. Parce que vous avez un aménagement organisationnel à un moment qui devra être repensé plus tard parce que la maladie évolue. Ça, je peux bien le dire, la maladie, elle évolue malgré les traitements, malgré toutes ces ressources dont on dispose, malgré tous ces souhaits qui sont à notre portée aujourd'hui, en tout cas dans une grande ville comme Marseille, elle n'est jamais stabilisée, notre situation. On peut avoir des poussées demain, après-demain, on peut marcher et puis demain avoir besoin d'une canne, et puis demain avoir besoin d'un fauteuil, et d'autres besoins au sein de l'entreprise. Donc vous voyez, pour aider les patients au travail, il faut faire toujours du sur-mesure, il faut avoir une approche personnalisée. Voilà. Et puis autre chose, hein, c'est que c'est humainement pas complexe pour les entreprises. Parce que si vous avez par exemple quelqu'un qui va être fatigué, qui pourra moins bien travailler, la charge de travail, à ce moment-là, il va falloir peut-être la répartir autrement dans le collectif. Et bien là, vous avez intérêt, vous, RH, chef d'entreprise, à trouver des réponses pour déboucher sur une redistribution de travail au sein du groupe qui soit vraiment comprise. Sinon, il va être relégué, votre patient. Vous comprenez ? Voilà, il faudrait dire qu'on a une maladie, que ce soit accepté, qu'on a la possibilité de se faire reconnaître, parce que anticiper, c'est vraiment faire sauter le plafond de verre, vous voyez, c'est éviter les placardisations. Ça pourra changer les regards, c'est par l'information, la communication qu'on pourra changer les regards. Et qu'on pourra dire aussi, là, excusez-moi, je tiens aussi à ça, et qu'on pourra parler des ressources des patients. Parce que la vie avec la SEP, elle vous bouleverse. Elle change vos habitudes d'être, d'agir, voyez. On a les contraintes habituelles, mais on a aussi une complexité inédite. Et là, sans formation, hein, on va devoir assurer une multitude d'activités au terme du soin. Le soin, c'est la multiplicité, c'est la régularité, c'est la rigueur. Si vous ne voulez pas que votre état de santé se dégrade, il faut être rigoureux. On va aussi mobiliser beaucoup d'énergie pour faire valoir des droits, pour obtenir des prestations. On a de nombreux interlocuteurs, on a des termes violents à gérer, incapacité, invalidité, restriction des aptitudes, etc. Et malgré tout ça, et ben on va s'adapter petit à petit, on va s'approprier sa maladie. Et c'est un sacré travail perso, hein. Et tout ce travail qu'on a fait, cette expérience de vie avec la maladie, c'est ça l'expertise au fond, une grande partie de l'expertise. Et bien on va pouvoir le transposer dans le monde de l'activité de l'entreprise. Et ça c'est important là, dans cette période de pandémie, parce que la pandémie elle déstabilise. Maintenant on concilie travail, maladie, c'est la première fois. Et bien elle éprouve tout le monde et nous, ben, les capacités d'ajustement, des façons de penser, d'agir, tout ça, face à une situation nouvelle, on connaît déjà. On va pouvoir, on devient un atout pour l'entreprise.
Un intervenant important dans la relation entre la personne en difficulté de santé et son employeur, c'est la médecine du travail.
Le premier allié, c'est le médecin du travail. C'est la personne clé de la prévention dans l'entreprise. Voyez, c'est lui, et lui seul, le médecin du travail, qui assure la compatibilité de l'état de santé avec les contraintes du travail. C'est lui qui va pouvoir proposer des aménagements de poste à l'entreprise. Il assure un suivi spécifique dans le code du travail. Il assure un suivi spécifique adapté des personnes handicapées. Quand vous avez cette reconnaissance de travailleur handicapé, le médecin du travail, vous le voyez quand vous voulez, régulièrement. Vous n'avez pas à en parler, ça c'est pour tous les salariés d'ailleurs. Il n'y a pas obligation pour un salarié de dire à son employeur « je veux voir le médecin du travail ». Le médecin du travail, il reçoit, lui ou quelqu'un de son équipe, hein, un infirmier, un psychologue, un ergothérapeute, quand vous le souhaitez. Et l'employeur, qui a une obligation, et ça c'est dans le code, hein, c'est une obligation générale d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, eh bien il va devoir suivre les préconisations du médecin du travail. Ou s'il ne le fait pas, il va devoir se justifier. Donc aujourd'hui, si vous qui m'entendez, atteint d'une maladie chronique, avez besoin de réduire votre horaire de travail, avez besoin de pause, avez besoin d'un fractionnement de vos tâches, avez besoin d'une meilleure accessibilité à votre lieu de travail parce que vous avez des troubles de l'équilibre, vous avez des troubles de la coordination, vous avez besoin d'évoluer au calme parce que cette maladie vous fatigue, votre temps de concentration, de mémorisation est réduit. Si vous avez une modification de l'éclairage qui est nécessaire parce que vous avez des troubles visuels, si vous avez besoin de toilettes à proximité parce que vous avez des problèmes urinaires, vous voyez, d'un transport adapté parce que vous ne pouvez pas prendre les transports ni en commun, ni les transports personnels, si vous avez besoin de télétravail, votre premier interlocuteur, c'est le médecin du travail. C'est lui qui, d'une manière générale, vous déclare apte ou qui vous déclare apte avec des contre-indications et ou inapte à votre poste, mais avec la nécessité d'être affecté sur un autre poste. Voilà. Et c'est lui qui va préparer l'action des autres intervenants. Le médecin fait le lien avec des organismes spécialisés qui sont chargés par les pouvoirs publics de mener à bien la politique du handicap, qui sont dans le monde du travail l'AGPIP, l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le FIP dans la fonction publique, c'est son pendant dans la fonction publique, c'est le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et puis vous avez la CARSAT aussi, la Caisse régionale d'assurance maladie, qui a un volet prévention des risques, et au sein du secteur prévention des risques, a un service social qui aide au retour en emploi. Le médecin du travail, ce n'est pas un salarié de l'entreprise. Il n'a pas de lien de subordination avec l'employeur. Vous allez pouvoir le rencontrer avant de reprendre le travail si vous êtes arrêté, dans le cadre de ce qu'on appelle une visite de pré-reprise, où là, il va pouvoir, avec vous, avec l'employeur si vous le souhaitez, sans l'employeur si vous ne le souhaitez pas, examiner vos capacités de travailler. Il est bon d'aller voir le médecin du travail lorsqu'on est arrêté, voyez ? Lorsqu'on est dans un arrêt même qui se prolonge. Il pourra vous dire, par exemple, d'aller vers un temps partiel thérapeutique. C'est une bonne façon de rentrer dans le monde du travail après un arrêt de longue durée.
Le temps partiel thérapeutique, c'est un dispositif qui permet d'aménager ses horaires de travail, mais c'est temporaire. On l'a pour 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an. Qu'est-ce qui se passe après, quand la maladie ne permet pas de travailler normalement ?
Il y a dans le secteur privé la possibilité de bénéficier d'une mise en invalidité, c'est-à-dire de percevoir un revenu de remplacement. C'est une décision qui est prise par le médecin conseil de la sécurité sociale sur demande du médecin traitant ou de l'assuré à l'issue d'une période de maladie longue ou à l'issue d'un temps partiel thérapeutique et qui intervient en cas de réduction de la capacité de la personne à travailler. Cette capacité, elle doit être réduite d'au moins 2/3. Ça, c'est quelque chose de très technique, c'est décidé par le médecin conseil lui-même. Lorsque vos capacités normales de travail sont altérées à hauteur des 2/3, on vous accorde une pension d'invalidité. Elle est versée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Il y a 3 catégories. Dans la première catégorie, selon le vocabulaire et le texte de la sécurité sociale, vous pouvez travailler à temps partiel. Avec les catégories 2 et 3, vous ne pouvez, selon les textes sécurité sociale, pas travailler. C'est ce qui est écrit et c'est ce qui peut bouleverser. En réalité, c'est une réglementation donc purement sécurité sociale. Vous pouvez tout à fait travailler en invalidité catégorie 1, 2, 3. La première catégorie, vous percevez 30% de votre salaire intérieur brut. La deuxième, 50%, et la troisième, en plus, une indemnité pour compenser les difficultés liées à votre état de santé. Dans les 3 cas, lorsque vous travaillez, vous ne devez pas, en cumulant la pension d'invalidité et le salaire que vous allez percevoir, obtenir une rémunération supérieure à celle que vous perceviez avant de tomber malade. La mise en invalidité, c'est la seule solution pour avoir une vie quand même confortable, pour pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Mais surtout, ce que je voudrais bien remarquer, c'est aux gens qu'il ne faut pas confondre invalidité et inaptitude. L'invalidité, c'est une décision prise par le médecin conseil de la sécurité sociale. L'inaptitude, c'est une incapacité fixée par un médecin du travail sur un poste de travail bien précis.
Il y a d'autres dispositifs qui permettent quand même de travailler confortablement sans forcément être mis en invalidité ?
Dans le secteur privé, non. Il y a un substitut de l'invalidité dans la fonction publique, puisqu'on ne peut pas être en invalidité et fonctionnaire, d'accord ? Si vous êtes fonctionnaire, il y a l'équivalent un peu de l'invalidité, qui s'appelle le congé longue maladie fractionné, mais qui est moins... Les gens sont moins libres, ont moins de liberté, parce que le temps non travaillé doit être consacré à des soins.
Les statistiques disent qu'en France, le chômage touche deux fois plus les personnes handicapées que leurs collègues valides. Malgré tout, vous incitez les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques à travailler.
Oui, oui, parce que, évidemment, si on n'a pas vraiment pas envie de travailler, parce qu'on a un boulot extrêmement fatigant, qu'on n'a pas pu faire de formation, qu'on est dans une situation avec des empêchements physiques très lourds, etc., ça va être très compliqué. En revanche, pour pas mal de gens, ça va être possible de travailler grâce à tous les aménagements. Je vous ai dit... tape assez thérapeutique, mise en invalidité, cumul invalidité et exercice de travail, ensuite aménagement des postes de travail au sein de l'entreprise.
On parle de plus en plus maintenant de télétravail avec la pandémie actuelle. Pour les personnes qui ont des maladies chroniques ou des handicaps, ça peut être un bon plan ?
Le télétravail, il en est pour un petit peu comme pour les personnes en situation de handicap comme pour les autres, ça apporte du confort, mais ça retire beaucoup de socialisation. Vraiment. Et puis, alors là, on a quand même eu pas mal d'études qui sont sorties à ce sujet-là. Pas mal de personnes en situation de handicap sont mises en difficulté parce que le travail à la maison n'a pas été accompagné d'actions de compensation du handicap. Et vous voyez, si vous avez des difficultés oculaires, si vous avez des douleurs, etc., il est peut-être bon de disposer d'un fauteuil ergonomique aussi chez vous, d'avoir un ordinateur à résonance vocale, d'avoir un bon éclairage. Tout ça, ça peut être mis en place au domicile. Hein. La GFIP, le FIP ont débloqué des aides exceptionnelles hein, et un accompagnement exceptionnel pour vraiment accompagner les gens à domicile. Si c'est fait, ça, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours fait. Donc là aussi, on peut lancer un appel pour que les entreprises et les personnes, les salariés, rappellent à leurs entreprises qu'il y a possibilité d'aménager des postes de travail en télétravail grâce à tous ces soutiens. Et étant entendu quand même qu'il ne faut pas non plus traiter d'une manière distincte les travailleurs handicapés. Il faut que lorsqu'il y a retour au travail de l'ensemble des salariés, il y ait égalité entre les personnes en situation de handicap et les autres. Hein. Il ne s'agit pas de laisser les personnes en situation de handicap à leur domicile si elles ne le souhaitent pas, en télétravail, et puis faire revenir au travail sur les lieux de travail des autres personnes. L'idéal, là aussi, c'est l'hybridation. Certainement l'hybridation, pour ceux qui le souhaitent.
En fait, ce qui compte surtout, c'est l'égalité des droits entre les personnes, qu'elles soient handicapées ou non. C'est-à-dire que il s'agit en fait de tenir compte des différences qui sont liées au handicap, mais que ces différences-là ne créent pas d'inégalité.
Elles ne devraient pas en créer d'inégalité. C'est pour ça qu'il y a une loi de 2005 qui est là justement pour poser trois grands principes. Cette loi de 2005, de février 2005, hein, ça fait donc combien, 16 ans, maintenant je ne sais plus, elle pose trois grands principes. L'égalité de traitement, l'accessibilité physique et sociale et la compensation du handicap. On ne peut pas dire que rien ne soit fait, hein, au contraire, moi je le mesure, hein, mais le bilan est en demi-tête. Voilà. Et vous savez, récemment, il y a une proposition de loi qui a été portée par des députés de l'AREM pour modifier les règles relatives à la santé au travail. Eh bien, dans cette proposition de loi, on ne citait à aucun moment les personnes en situation de handicap. Et on a à aucun moment, ils n'avaient pensé à solliciter, à prendre attache auprès des associations de patients. Eh bien là, ce sont les associations, l'APF, c'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées, tout ça, qui se sont saisis, qui se sont auto-saisis. Et bien leur en souhait, parce qu'ils ont quand même apporté quelques modifications à un texte qui employait le mot vulnérable, une seule fois, le mot vulnérabilité, et ne portait jamais le mot personne en situation de handicap.
Comme si c'était des gros mots.
Ouais, comme si c'était des gros mots. Mais si on va vers une égalité de traitement, si on va vers une accessibilité en utilisant des supports dont on a besoin et puis en construisant des logements, par exemple, qui prennent en compte les difficultés d'accessibilité, en construisant des entreprises où les gens pourront accéder aisément et auront des toilettes à proximité et auront la possibilité de se reposer. Et si on compense le handicap, par exemple, avec des transports comme on l'a fait à Marseille, avec Mobi Métropole, qui fonctionne super bien pour aller au travail, il y a des choses qui ont avancé. Qu'on aille jusqu'au bout de ça, et on ira ainsi vers une société inclusive, où chacun sera accepté avec ses différences.
Une société où chacun trouverait sa place et où les différences seraient source d'enrichissement plutôt que d'exclusion. Voilà le souhait de Marie-Delaine et voilà le souhait aussi de pas mal de gens, pas mal d'entre nous, je pense, pas mal de ceux qui écoutent Radio Galère 88.4 en FM ou par la radio numérique sur le DAB+, je crois que c'est le canal 8. Et puis aussi par internet www.radiogalère.org. Mais comme on n'y est pas encore dans cette société inclusive-là, eh bien, il y a encore des associations pour militer, pour s'informer, pour se soutenir, comme par exemple le site pacacep.org, www.pacacep.org, pour les personnes qui résident en PACA et qui veulent s'informer sur la sclérose en plaques et peut-être aussi d'autres maladies chroniques. C'est information juridique, information événements, tout ce qui est aussi d'ordre scientifique, www.pacacep.org. Et puis sur Marseille, il y a aussi une autre association, on a parlé d'En Avant Sclérose en Plaques en mars 2021, et puis également il y a MS Community, M plus loin S plus loin Community, c'est O2MUNITI, qui a un téléphone, c'est le 06 60 62 88 15, 06 60 62 88 15. Et il y a notamment dans cette association des groupes de parole, ce que Marie-Delaine appelait tout à l'heure les Kawasep. On va poursuivre avec notre jeu musical, 5 titres disparates mais qui ont à voir ensemble, comme la société inclusive d'ailleurs, et qui sont liés à une actualité récente. Eh bien, moi, je vous demande de trouver ces titres et puis de trouver peut-être l'actualité en question. Vous pouvez jouer chez vous, puisqu'on n'a pas d'antenne ouverte cette fois-ci. On est en différé. Mais voilà, vous pouvez jouer chez vous et puis vous aurez les réponses à la fin de l'émission. Bonne chance.
Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination.
C'est le temps, c'est comme le vent, vivre rien que ça d'important, c'est pas mal de la morale, c'est bien pour toi.
Comme j'ai dit, vous ne pouvez pas appeler par téléphone pour jouer, mais par contre, vous pouvez quand même laisser vos suggestions et vos remarques sur le téléphone de l'association, de la Luciole, au 06 81 13 24 68. Et puis si vous avez aussi, par exemple, des sujets que vous voudriez traiter ou des gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés pour intervenir dans notre émission, ben vous pouvez nous le faire savoir aussi. 06 81 13 24 68. Il y a un mail également, contact@laluciole.asso.fr. Vous êtes dans Handicap Tribune et avant de recevoir notre second invité, recevoir c'est un grand mot parce qu'on n'est pas en studio, c'est du différé. Mais bon, on va donc passer une chanson que nous a demandé Marie-Delaine et qui est Camarade de Jean Ferrat.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.
Une chanson de 1969 qui parle des événements du printemps de Prague, l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, c'était en 1968. Et une chanson qui se retrouve de nouveau d'actualité vu les frictions qu'il y a maintenant entre la Tchécoslovaquie et la Russie. Je pensais que c'était daté, mais pas tout à fait en fait. Nous quittons l'Est de l'Europe pour le Sud avec notre seconde invitée, Greta Sandon. Elle a un projet avec des personnes valides et des personnes handicapées visuelles, un projet chorégraphique. Elle propose aussi dans une association à Marseille des séances de pilates. Elle va vous expliquer tout cela. L'interview a eu lieu en face à face, avec les distances nécessaires évidemment, le 13 avril dernier. Greta Sandon, bonjour. Vous êtes venue nous parler d'un projet avec des personnes handicapées visuelles, un projet artistique. Mais auparavant, j'aimerais que vous vous présentiez à nos auditeurs. Qui vous êtes?
Alors déjà, bonjour. Moi, je suis Greta Sandon. À la base, je suis danseuse professionnelle. Je viens d'Italie et ça fait 5 ans que je suis sur Marseille. À côté de la danse, j'ai aussi étudié et développé des autres techniques. Je me suis un peu jetée dans le monde du Pilates, qui est une technique alternative en fait pour travailler la posture, pour travailler les mouvements. Et aussi, j'ai commencé depuis trois ans à bosser avec des personnes handicapées.
Et donc, comment en êtes-vous venu justement à travailler avec des personnes handicapées? Des personnes handicapées tout handicap ou des personnes handicapées visuelles seulement d'ailleurs?
Alors, la première expérience que j'ai eue, c'était au temps de l'académie à Milan. Donc, on revient en 2012-2013, quand j'avais eu un premier contact avec une compagnie de mixabilité. Donc, en fait, il y avait des danseurs et des personnes avec des handicaps. Et ça, il m'avait toujours intéressé. Le travail que cette chorégraphe il avait proposé, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et après, quand je suis arrivée en France, je suis venue avec une valise et dedans, il y avait un petit dossier pour un petit projet que je voulais faire. J'ai commencé ici parce qu'un jour, je me suis dit, c'est l'heure de les mettre en place. Et du coup, c'était moi à chercher des associations avec lesquelles pouvoir travailler. J'ai commencé par du bénévolat, supporté et soutenu aussi par Pierre Ortolari, qui est un des responsables de l'animation dans une association qui s'appelle UNADEV à Marseille. Et grâce à lui, en fait, j'ai pu suivre un peu les activités qu'il y avait dans l'association, mais aussi l'année dernière, comme par hasard, je suis rentrée dans une compagnie qui s'appelle Mixability. Et c'est une compagnie avec des personnes, des professionnels de l'art, qui par contre, ils ont différents types de handicaps, donc pas qu'aveugles.
Donc en même temps, vous faites des activités auprès d'une association et puis vous continuez votre travail professionnel de danseuse.
Exactement. Oui.
Et donc dans cette association UNADEV, vous proposez notamment des séances de pilates. Alors, c'est quoi le pilates?
C'est on peut dire une gymnastique posturale. Joseph Pilates, c'était un monsieur qui a inventé ça. Je résume un peu l'histoire. Après avoir eu un parcours de plusieurs disciplines sportives, et il avait créé cette technique pour aider des personnes infirmes, donc malades à l'hôpital, pour se remettre debout. Donc c'était une discipline qui travaillait beaucoup la motricité du corps, qui reprend un peu les idées du yoga, les idées de la gymnastique, etc. Et que maintenant, il est de plus en plus développé et il travaille vraiment sur la colonne vertébrale et la respiration.
Et comment on travaille justement des mouvements avec des personnes handicapées visuelles? Il faut expliquer les mouvements? Il faut montrer? Comment ça se passe?
Alors, moi, je fais les deux. Je me sens assez libre d'expliquer, mais aussi de faire les mouvements. Et sûrement, il y a une sorte de description très précise. Je dis que toujours, il faut dire les choses par étapes. Il y a une consigne qui est les mouvements en soi. Et après, expliquer petit à petit comment les faire en ajoutant comme des sous-titres et chaque fois un détail en plus. C'est sûr aussi que pour moi, c'est plus facile de parler et en même temps les faire pour comprendre c'est quoi en fait les messages essentiels à donner pour que les personnes puissent faire les mouvements corrects. La première fois, j'essaye de les faire en même temps que j'explique. Après, je regarde si ma consigne elle a été bien comprise. Et puis, je commence à ajouter des détails, par exemple sur la conscience du corps, aussi à niveau anatomique, de sentir vraiment certaines parties musculaires ou des fascias musculaires surtout activées ou pas.
Et après, éventuellement, les gens vont pouvoir toucher ce que vous faites ou bien vous venez leur expliquer les postures malgré justement les difficultés qu'il peut y avoir là, avec la pandémie et tout ça. Vous arrivez à faire des choses?
Oui, alors moi je demande toujours au début d'une classe en fait si je peux m'approcher aux gens, dans le sens si je peux les toucher au lieu d'une correction. Et eux, en général, ils n'ont pas de problème. Après, je garde toujours la masque, donc toujours pour les mesures de sécurité. Mais en tout cas, plutôt que laisser qu'eux, ils puissent toucher moi, j'essaie d'amener leur corps à la position correcte, en fait, ou simplement de toucher la partie qu'ils doivent aller corriger.
Et là, vous les faites en présentiel actuellement ou vous arrivez à faire à distance aussi des séances comme ça?
Alors, dans le deuxième confinement, on a fait à distance. Et c'était par Zoom, comme toutes les personnes qui maintenant ils donnent des classes. Et maintenant, par contre, on continue à faire en présentiel, ben, pour l'instant à l'extérieur, avec une limite de participation, en fait, de 4-5 personnes, pas plus.
Avec des tapis, je suppose?
Avec des tapis, oui. Parfois, on utilise aussi des élastiques. Ça dépend aussi du niveau de la classe. Les élastiques, ils permettent aussi de jouer sur la flexibilité, sur la souplesse. Donc, en général, il y a un tapis pour s'allonger. Et puis, si on veut, on peut aussi utiliser des matériels comme justement l'élastique ou les cercles, que c'est un cercle en plastique qu'on peut presser. Et ça va travailler vraiment les muscles profonds abdominaux ou des jambes.
Et là, vous avez des groupes qui sont constitués ou qui sont encore ouverts?
Alors, pour les pilates, ils sont ouverts. Au contraire, j'invite les gens à participer avec grand plaisir pour se connaître aussi et pour connaître la discipline. Et après, il y a des habitués aussi.
En dehors de ces séances de pilates, vous avez un projet qui est un projet de spectacle avec des personnes handicapées visuelles qui font partie de votre groupe de pilates ou qui sont venues par d'autres voies?
Alors, il y avait deux personnes dans cette première résidence qui venaient du cours des pilates et deux qui ont participé sans savoir, sans me connaître forcément. Et les projets, c'est les fameux dossiers que j'avais embarqués avec moi de mon voyage. Donc, j'essayais de les remettre en place, mais j'ai changé certaines choses. Comme quoi, par exemple, les dossiers que j'avais écrits, c'était une idée pour un projet en soi, finaliser un spectacle. Alors que ce projet ici, avec la distance du temps, pour moi, c'est plutôt un projet de vie. Dans le sens que je commence avec cette idée de créer un groupe, une sorte de collectif mixte. Mais le but, c'est pas forcément de souligner cette idée d'être, de travailler avec des personnes handicapées. Au contraire, j'aimerais bien que nous, danseurs, on puisse apprendre des personnes avec cet handicap. Qu'est-ce que ça veut dire encore avec des sensations différentes ou comment, en fait, deux corps différents, ils peuvent être presque égales dans toute une situation mise en place ensemble. Donc pour moi, c'est les buts de ces projets, c'est ça. Et bien sûr, après, je souhaite dans les temps, je me dis dans un petit 6 mois, 7 mois, voire un maximum un an, faire aussi un spectacle, quoi, avec grand plaisir.
Donc là, c'est un projet chorégraphique, si j'ai bien compris.
Exactement. Le projet s'appelle Vivi e non guardarmi, qui en italien, ça veut dire vive moi-même sans me regarder, sans me juger. C'est un projet que pour l'instant on a fait au Pôle 164, que c'est un grand centre qui accueille des résidences artistiques. J'étais en collaboration avec trois danseurs qui m'ont aidé aussi comme assistant et ils ont participé au projet en donnant des idées et aussi en suivant les autres personnes. Et quatre personnes avec ce type de handicap qui font partie de l'association UNADEV. On a fait une semaine de résidence où on a vraiment découvert un langage commun. On a trouvé une confiance extraordinaire, je trouve, parce qu'à travers les mouvements, les touches, la sensation et l'espace, on a presque vécu dans une boule complètement des rêves, des corps, des danses toute la semaine. Et c'était très touchant.
C'était quand cette résidence?
C'était du 28 mars au 2 avril.
Et là, donc, vous avez d'autres séances de prévues, d'autres résidences?
Alors, à mettre en place, j'aimerais bien en faire une en juin. Il faut juste que je trouve les lieux, parce que maintenant, avec la pandémie, c'est très compliqué pour faire des résidences artistiques. On est très limité sur ça, pour les espaces, et aussi parce que les lieux publics artistiques, ils peuvent pas nous inviter. Mais sûrement, je ferai une autre résidence, je suppose et j'espère, en septembre, toujours au Pôle 164.
Vous avez un groupe qui est constitué, là?
Pour l'instant, oui. L'idée, c'est aussi de l'agrandir. Je ne peux pas dire tout de suite, justement, parce que j'ai aussi, quand je présente mon projet, il y a une limite des participants à respecter pour le Covid et pour la pandémie. Mais sinon, j'aimerais bien que le groupe puisse s'agrandir un peu.
Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que vous puissiez mener les choses jusqu'au bout et qu'on arrive à un spectacle de danse mixte dans quelques mois.
J'espère avec grand plaisir. J'espère aussi que vous puissiez venir, sentir, écouter. Ça sera un spectacle vraiment sur tous les sens. Donc, je ne révèle pas trop comme ça. Il y a une surprise, mais en tout cas... je souhaite à tout le monde qu'ils puissent vraiment s'approcher au monde de la danse, parce que c'est un monde qui il fait découvrir plein de sensations différentes.
En même temps, la danse, c'est quand même pas quelque chose de très facile pour des personnes handicapées visuelles, en tout cas de voir de la danse. Vous pensez faire un commentaire, une audiodescription de ce que vous allez présenter?
Absolument, pas dans tous les spectacles, mais sûrement il y aura aussi des aides au niveau des sons, et les spectacles, ça ne sera pas que forcément du mouvement. Donc en fait, ça sera vachement plus intéressant. Et on ne sait pas, mais peut-être personne n'y regardera les spectacles. Donc voilà, ça c'est la petite révélation du monde.
Ah, vous pensez peut-être faire un spectacle dans le noir, donc du coup?
Peut-être avec des autres solutions, aux petits secrets, aux petites blagues qu'on pourrait faire au public. Mais en tout cas, oui, on prend en considération ça. Et grâce aux aides, à l'aide des participants, du coup, avec la déficience visuelle, je pourrais aussi comprendre dans quelle forme mettre les spectacles pour que tout le monde puisse recevoir ce spectacle à la même manière, en fait.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Handicap Tribune sur Radio Galère 88.4, www.radiogalère.org. C'était Greta Sandon qui nous parlait de son projet de spectacle avec des danseurs professionnels et des personnes handicapées visuelles. Et puis, auparavant, elle nous expliquait comment elle faisait dans son cours de pilates avec ces mêmes personnes déficientes visuelles. Et pour ceux qui seraient intéressés notamment par le cours de pilates, il y a donc le numéro de téléphone de l'UNADEV, Union Nationale des Personnes Déficientes Visuelles, qui est à Marseille, au 54 avenue du Prado. Et donc le téléphone, c'est le 04 91 81 68 87. 04 91 81 68 87. Et à propos, la musique qui illustrait l'interview, ce n'est pas une danse italienne, c'est une danse médiévale qui s'appelle la Nota Sebissa et qui était interprétée par l'ensemble Millenarium. On reste dans la danse avec la pause suivante, mais vous allez voir que la danseuse a quelques problèmes.
Avec un hidalgo, au temps du temps du temps du temps du temps du tango, elle dansait avec un Roméo, au temps de l'exposition internationale. Elle danse maintenant chez Potel et Chabot, elle a toujours la dent, la dent.
Je ne sais plus où j'ai entendu récemment cette chanson des Parisiennes, Le temps du limbago, que je ne connaissais pas. J'ai trouvé qu'elle collait parfaitement avec le sujet que l'on vient de traiter. C'est un peu d'humour, évidemment. On ne fait pas un limbago forcément en faisant du pilate ou de la danse, bien sûr. La partie informative de Handicap Tribune, c'est bientôt terminée. Il ne reste plus qu'à donner les réponses au jeu. Mais auparavant, je vais vous faire repasser les indices. Si vous avez joué chez vous, vous avez peut-être trouvé les titres. Il y avait Hakuna Matata, tiré de la bande originale du Roi Lion, dans sa version américaine. L'air de la Reine de la Nuit, tiré de la Flûte Enchantée. Les Rois Mages, chanté par Sheila. Un extrait de Roméo et Juliette, Les Rois du Monde. Et enfin, La Marche des Rois, qui est un air traditionnel de Noël. La thématique d'actualité liant tout cela étant bien sûr le récent décès du prince Philippe. Avant de laisser la place aux interprètes de Jean Ferrat, parmi lesquels Christine Sèvres, bien sûr, et puis Isabelle Aubray, également Marc Augeret, et puis un album qui date d'il y a 6 ans maintenant, qui s'appelait « Désert de liberté », on entendra Dionysos. Eh bien, avant de vous laisser donc place à la musique, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, pourquoi pas des suggestions de jeux, à la Luciole, contact@laluciole.asso.fr. Le numéro de téléphone, c'est le 06 81 13 24 68. contact@laluciole.asso.fr et sinon 06 81 13 24 68. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis au mois prochain et je vous dis aussi, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Au revoir.
Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout. Que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter. Que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, c'est beau. La vie.
Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval quand tu parlais du sang, jeune homme singulier. Scandant la cruauté de tes vers réguliers, le rire des bouchers t'escortait dans les halles. Tu avais en ces jours ces accents de gageure que j'entends retentir à travers les années. Poète de 20 ans d'avance assassiné, et que vengeait déjà le blasphème et l'injure. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. Debout sous un porche avec un cornet de frites, te voilà par mauvais temps près de Saint-Méry. Dévisageant le monde avec effronterie de ton regard pareil à celui d'Amphitrite. Énorme et palpitant d'une pâle buée, et le sol à ton pied comme au sein nu l'écume se couvre de mégots, de crachats, de légumes, dans les pas de la pluie et des prostituées. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. Et c'est encore toi sans fin qui te promène, berger des longs désirs et des songes brisés. Sous les arbres obscurs, dans les Champs-Élysées, jusqu'à l'épuisement de la nuit, ton domaine. Oh, la gare de l'Est et le premier croissant, le café noir qu'on prend près du percolateur. Les journaux frais, les boulevards pleins de senteurs, les bouches du métro qui captent les passants. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. La ville un peu partout garde de ton passage une ombre de couleur à ses frontons salis. Et quand le jour se lève au Sacré-Cœur pâli, quand sur le Panthéon comme un écarissage le crépuscule met ses lambeaux écorchés, quand le vent hurle au loup dessous le ponteau change, quand le soleil au bois roule avec les oranges, quand la lune s'assied de clocher en clocher. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas
ou le destin de notre siècle. Seigneur,
j'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix, qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tôt usées. Et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi, moi, par moments, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne et je meurs sous vos mêmes liens. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu l'auteur. Vous me mettrez avec Enter comme une étoile au fond d'un trou.
Je ne suis pas littérature, je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis littéraire, je ne suis pas morceau choisi. Je serais plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas guide ou bréviaire, ni baratin, ni théorie qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis qu'un cri. Pas de fil
à la pâte. Je ne viens pas d'une écurie. Non, je ne suis pas diplomate. Je n'ai ni drapeau ni patrie. Je ne suis pas rouge écarlate, ni bleu ni blanc ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate de ces cris-là qu'on interdit. Je ne suis pas cris de plaisance, ni gueulante de comédie. Le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis je vous dérange, je voudrais être un autre cri, être le cri de la mésange ou celui d'un oiseau de nuit, tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Moi je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie. Je ne suis
J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant m'apparaisse ce dont je rêvais quand j'étais gamin. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrais traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes. Moi, je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Thank you.